Bonjour à tous, merci d'être venus malgré toutes les difficultés des travaux. Donc nous allons essayer justement de sortir de nos problèmes, d'aller voir dans les galaxies à très très grand redshift, près de la réionisation. Donc comme vous le savez, notre principal but c'est de savoir ce qui se passe dans le premier milliard d'années, parmi les 14 milliards d'années de l'univers, le premier milliard d'années juste après le Big Bang. Donc, quelles sont les questions? Les questions, c'est est-ce qu'il y a un taux de formation d'étoiles un peu comparable à ce qu'on connaît aujourd'hui? Et surtout, est-ce qu'il va y avoir assez de formation d'étoiles, assez d'UV pour ioniser l'univers? Apparemment, si on se contente des étoiles que l'on voit et qui sont vues là, le taux de UV, en fait, est ici. On a un certain nombre de galaxies. Et c'est pas suffisant. Jusqu'à présent, c'est pas suffisant. Si vous voyez 4, le redshift 4, 6, 8 et 10, il y a une chute à z égale 10, et donc il semblerait qu'on n'arrive pas à trouver toutes les galaxies qui permettent d'ioniser. Peut-être ce sera dû à des trous noirs, des noyaux actifs, mais ils sont assez rares. Donc on ne sait toujours pas quelle est l'efficacité de formation d'étoiles. On aimerait connaître justement l'efficacité à partir du gaz moléculaire, puisque c'est dans le gaz moléculaire que se forment les étoiles, et dans les premières galaxies, tout est gaz, en fait, il n'y a pas d'étoiles encore, donc tout est gaz, et peut-être que c'est plus efficace qu'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des étoiles de population 3? Alors, qu'est-ce que c'est la population 3? Ce sont les premières étoiles. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est la population 1. La population 1, c'est les dernières étoiles, les jeunes, qui ont été formées et qui sont enrichies en métaux parce qu'elles sont formées, elles ont, à partir du gaz qui était enrichi par les générations précédentes d'étoiles. Donc, la population 1 se trouve dans le disque de la Voie lactée, dans les bras spiraux. Ensuite, on a la population 2, qui sont des étoiles plus vieilles, donc qui sont formées dans la première moitié de l'âge de l'univers et qui ont moins de métaux parce qu'ils sont moins enrichis par les générations précédentes. Donc, et on aimerait avoir les POP 3. Donc c'est des objets qui normalement n'ont très peu de métaux, pas du tout même la première génération, puisqu'il n'y a que les éléments légers de la nucléosynthèse primordiale. Et comme il n'y a pas d'éléments lourds pour refroidir, la température est très élevée et donc la masse de Jeans est très grande puisque la pression compense la gravité. Donc on s'attend à trouver de grosses étoiles, peut-être 1000 masses solaires, alors que la majorité aujourd'hui, ça stationne à 100 masses solaires. Donc on aimerait trouver des étoiles qu'on n'a jamais vues. Et puis on aimerait savoir quelle est la dynamique des galaxies, etc. Donc vous voyez, c'est un peu inconnu puisque ce sont des galaxies très lointaines. Donc ici, c'est symbolisé par cette image, l'âge de l'univers étant ici. On est dans le premier milliard. Et on sait qu'il se forme des étoiles, puisque l'univers va être rayonisé. On sait qu'il est fini de rayoniser à z égale 6, 5 ici. Donc ici, on a le redshift. Ici, on a les années en milliards d'années. Il se forme aussi beaucoup d'étoiles. Ici, c'est la densité de masse stellaire en fonction du temps. Donc on voit qu'il y a très peu d'étoiles qui se forment, donc ça stationne, c'est stationnaire. Donc il n'y a plus beaucoup, un tout petit peu d'étoiles se forment aujourd'hui. Mais surtout, c'est ici qu'il y a un accroissement d'étoiles, et puis ici, et qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe. Donc, quelles sont les fractions de gaz qu'ont les galaxies? Est-ce que ce sont des flambées de formation d'étoiles ou bien des formations régulières? Est-ce qu'il y a des collisions de galaxies? Tout ça, on aimerait le savoir. Alors, comment faire pour chercher les galaxies très lointaines dans le premier milliard d'années? Ici, on se base sur les simulations numériques, qui sont la seule chose qu'on connaît bien. Et on a quand même dans le fond cosmologique vu par Planck, WMAP, etc., on sait qu'il y a des fluctuations primordiales, donc on peut faire des simulations à partir de ces fluctuations et voir ce que va devenir les structures à une certaine époque, comme z égale 7. Ici, vous avez une simulation où on a en orange et jaune les bulles ionisées. Alors ces bulles ionisées, on l'a vu la première séance, il y avait un équilibre qui se passait entre le flux de rayonnement ionisant, le taux d'ionisation, et puis la recombinaison. Donc il y a un état stationnaire dans chaque bulle, et chaque bulle est appelée la sphère de Strömgren. Et cette sphère de Strömgren, pour la rayonisation ici, sont des grosses sphères qui font 30 mégaparsecs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de galaxies à l'intérieur de ces bulles. Ce sont des petits groupes de galaxies, et ce ne sont pas des galaxies uniques, ce sont des énormes bulles qui sont en état stationnaire pendant un moment. Ce que vous voyez en bleu, c'est le gaz d'hydrogène neutre qui n'est pas encore ionisé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de galaxies, enfin, ce sont des vides. Il n'y a pas beaucoup de galaxies, même pratiquement pas, et donc on ne peut pas ioniser facilement. Donc c'est cette granularité, cette irrégularité qui fait que ça prend du temps. Alors comment on peut regarder ça? Eh bien, voyez, on a le champ de Hubble profond, qu'on appelle Hubble Ultra Deep Field, qui est petit, en fait, il fait 3 minutes. Vous voyez, par rapport à tout ce qu'on voudrait regarder, c'est petit. Et ce qu'on voit tout de suite, c'est que selon... Alors, on ne sait pas exactement où il faut le pointer, puisque ça, c'est une simulation, hein, ce n'est pas le ciel. Donc, on voit qu'on pourrait très bien le pointer dans une région qui est toute neutre ou bien toute ionisée. Donc, on a ce qu'on appelle la variance cosmique. On ne sait pas où le mettre et on peut se tromper complètement sur l'aspect de l'univers si on a un champ qui est trop petit. En fait, avec ce champ Hubble, on a aussi d'autres champs qui ont été un peu plus... une mosaïque de champs qui a été faite par exemple dans Candles qui fait 20 minutes, mais même 20 minutes, vous voyez ici c'est 1 degré, donc 60 minutes, ça va couvrir une région et on peut très bien tomber sur quelque chose qui est moins ionisé ou plus ionisé et qui n'est pas représentatif de l'univers à cette époque-là. Donc là, il faut savoir qu'il y a une très forte irrégularité qui est attendue. L'ionisation ne va pas se faire de façon très homogène et simple. Alors, on va essayer de passer en revue les indices que l'on a sur cette réionisation. On a d'abord les quasars. On en a déjà parlé. On a, par exemple, des quasars qui émettent un continu. Le continu est ici, un rayonnement continu qui vient du disque d'accrétion autour du trou noir. Un quasar, c'est un trou noir qui est très efficace pour rayonner. Et on a notamment la principale, l'iman alpha de l'hydrogène, qui est un pic. Et puis, normalement, si le milieu à l'intérieur entre les galaxies était ionisé, eh bien, nous aurions un continu qui serait la même chose à droite qu'à gauche. Alors ici, c'est la fréquence, la longueur d'onde. On appelle ça l'aile rouge, puisque c'est une plus grande longueur d'onde qui croît ici. Ici, c'est la longueur d'onde plus courte, donc c'est l'aile bleue. Et l'aile bleue, elle est absorbée, hein, simplement parce que les photons ont assez d'énergie pour ioniser tout ce qui est de ce côté. Ils n'en auront plus de ce côté, puisqu'il est décalé vers le rouge, donc moins d'énergie. Et ces photons ne sont pas absorbés, donc vous avez une aile rouge intacte, et vous pouvez deviner ce qu'aurait dû être le continu de l'autre côté. Donc vous voyez qu'il y a une absorption très grande, qui est ce qu'on appelle un fossé de Gunn-Peterson ici, pour des redshifts 5, 8, 5, 9, 6, 8. Donc ici, ça veut dire que même à ces redshifts-là, on n'a pas terminé la réionisation, puisqu'il y a encore beaucoup de gaz neutre qui absorbe ici. Donc déjà... Alors, si on revient un peu sur cette Rayleigh-Mann alpha, on voit que l'atome d'hydrogène, donc on a le premier niveau N égale 1, et toute la série de Lyman, c'est celle-là qui nous intéresse, elle va être tous ces niveaux. Le premier niveau, c'est à 1220 angstrom, ou bien 122 nanomètres. Et puis, Lyman alpha, Lyman bêta, gamma, delta, etc. Alors, ça, ce n'est pas à l'échelle, parce qu'en fait, l'énergie est en 1 sur N2, donc c'est juste linéaire. Et on va voir cette série dans les quasars. Alors cette série, elle est plutôt à l'échelle ici. Donc on a la Rayleigh-Mann alpha, 1220 angstrom ici. L'Iman bêta qui est plus énergique, hein, on a vu que c'était deux niveaux. Puis l'Iman gamma, et puis tout ça se rétrécit, jusqu'à l'Iman continuum. Quand on arrive à 922, on a 13,6 électronvolts d'énergie, et on peut ioniser l'atome. Donc ici, on a un atome ionisé, ici, on a l'atome neutre. Et donc, ce qu'on va voir pour le long de la ligne de visée d'un quasar, en fonction de la longueur d'onde, mais évidemment en fonction du redshift aussi, donc l'espace. Ici, on a la Rayleigh-Mann alpha, on a bien le fossé de Gunn-Peterson, complètement absorbé, donc vraiment de l'hydrogène neutre. Et puis, quand on va à un redshift plus bas, eh bien, on va voir que l'univers va être de plus en plus rayonisé, c'est avec le temps. Donc, on fait une prairie jusqu'à une forêt Rayleigh-Mann alpha qui va avoir comme enveloppe le continuum du quasar ici. Et puis, aujourd'hui, lorsque l'univers est complètement réionisé, on voit quand même des absorptions à chaque galaxie, au voisinage de galaxies, où l'hydrogène peut rester neutre dans le milieu circumgalactique, mais entre les galaxies, c'est tout ionisé. Donc, on va se servir de cela. En fait, vous voyez qu'on peut lire dans l'aspect de quasar toute l'histoire de la réionisation, parce qu'on a à la fois le temps et l'espace qui se conjuguent ici. Vous avez la fréquence, mais la fréquence, c'est la fréquence au repos sur 1 plus Z. Donc 1 plus Z ici, vous voyez que ici c'est 1220 angstrom, mais avec 6,9, multiplié par 6,9 en lambda. Et ici, C'est évidemment, lorsque vous allez vers là, vous avez z égale 0, donc nous, nous sommes là-bas. Et donc, vous remontez le temps, et vous voyez que, alors là, ces deux quasars-là, un rouge et un noir, vous montrent qu'au même redshift, on peut avoir des lignes de visée complètement différentes. Il y a ce quasar-là, on a un fossé de Gunn-Peterson qui va durer jusqu'à 160 mégaparsecs autour du quasar, et puis on va retrouver une prairie et puis une forêt Lyman-alpha ensuite. Mais celle-là, dans cet espace-là, il est complètement ionisé déjà. Hein, c'est un petit peu, si on revient en arrière dans la simulation... Oups, c'est pas plutôt en avant que j'étais allée. Si je reviens en arrière, on voit bien que si je mets une ligne de visée ici, je vais voir tout ionisé. Si je mets une ligne de visée ici, c'est complètement neutre. Donc, en effet, on comprend pourquoi il nous faudra un grand nombre de quasars pour avoir une petite idée de la réionisation réelle, puisque une ligne de visée ne suffit pas, elle n'est pas représentative de tout ce qui se passe. Donc, il faut avoir un certain nombre de quasars. Alors, justement, en voici un certain nombre. Ils sont rangés par décalage vers le rouge ou redshift croissant. Ici, vous avez 5, 7. Là, ça croît, ça croît. Donc, on a mis des couleurs bleues, puis ensuite, ça verdit jusqu'à 6. Ça repart là en vert, et puis ça revient jaune et puis rouge. Hein, c'est le décalage vers le rouge complet. Ça se suit. Alors, ce que vous voyez, c'est qu'il y a à chaque fois un bon fossé de Gunn-Peterson jusqu'à 5. Donc, on a en effet, la réionisation prend du temps, elle est très tardive, jusqu'à 5,5. Et ce que vous voyez aussi, c'est que ce n'est pas forcément toujours bien régulier. Pourquoi ? Parce qu'il y a parfois, tout près du quasar, un absorbant qui absorbe complètement la raie Lyman-alpha même du quasar. Donc, c'est d'un quasar à l'autre, on n'a pas exactement le même... le même point zéro, si vous voulez, et là, il faut le rétablir. Alors, voici un petit peu un exemple où on peut le corriger. Vous voyez, ici, on a la raie Lyman-alpha a été absorbée elle-même. Donc, ce qui nous reste à voir, c'est la courbe en noir qui est observée. Et on voit que on peut fitter un peu l'aile rouge qui n'est pas absorbée, elle, donc qui nous sert de test. Et puis, on peut l'ajuster à 1 sigma, 2 sigma, etc. Mais on peut faire quelque chose d'assez fin. Et avec plusieurs modèles qui sont plus ou moins réalistes sur ce qu'on sait de ces sources-là. Et donc là, ici, il y a 300 modèles que vous avez en gris. Et on prend la probabilité maximum, ce qu'on appelle maximum likelihood. Donc en rouge, vous avez la correction rétablie avec un résidu qui est le minimum. Donc on peut rétablir et ensuite on peut connaître exactement ce qui est absorbé par rapport à ce qui est observé réellement. Alors ici, on en a déduit qu'à z égale 7,1, ce quasar-là, on avait encore la fraction d'hydrogène atomique, H1, c'est l'hydrogène atomique, elle était 40%, donc on est à peu près à la moitié de la réionisation seulement. Donc avec un grand nombre de quasars, on voit ici, en fonction du redshift, on peut simuler, alors la simulation, c'est le grisé, avec certains taux de confiance, ici, 68%, 95%, etc. On a rajouté, même en gris foncé, il y a trois niveaux de gris ici, 20% de dispersion supplémentaire, parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de dispersion d'une ligne de visée à l'autre. C'est beaucoup plus que prévu. Et on voit que tous ces points, ce sont des quasars observés. Et on commence à comprendre qu'ici, donc on a l'épaisseur optique d'absorption de l'hydrogène atomique. Elle part d'un faible degré, donc ici c'est déjà réionisé, et puis ensuite on monte à des fortes épaisseurs optiques, donc des fortes absorptions, et ça monte brutalement à 5,5, donc c'est là que se produit l'époque de la réionisation. Donc ça a été stimulé par plusieurs paramètres, donc on essaie d'ajuster les paramètres pour essayer d'inverser les observations et retrouver un peu à quelle époque et avec quelle température se produit la réionisation. En fait, si la température est froide, ça veut dire que ça s'est réionisé plus tôt. Pourquoi la température joue ? C'est qu'il y a un équilibre toujours entre l'ionisation et la recombinaison, et le taux de recombinaison dépend de la température du gaz. Donc on va le voir. Et ici, vous voyez des simulations avec des redshifts différents, 4, 9, 5, 5, 3, 5, 5 et 5, 7, etc. Et ici, c'est la probabilité de trouver une épaisseur optique d'absorption. Et on voit qu'en fonction du redshift, on se décale vers les fortes absorptions. Et si jamais le fond UV, hein, UV background, là, UVB, c'est le fond UV, le fond de rayonnement UV, il était uniforme, on aurait une réionisation très brutale. On aurait une sphère d'ionisation, etc. Mais ce n'est pas le cas. Et donc, du fait de l'irrégularité des îlots, des poches ionisées, des îlots neutres, on a un étalement de cette, en fonction du redshift, un étalement de cette dépendance. Donc, on arrive un petit peu à inverser les paramètres et à connaître le taux de. Alors, on voit bien dans les simulations, hein, on a bien les galaxies et toutes les sources ionisantes qui sont agglomérées dans des filaments cosmiques, dans des structures, et on a pas mal de vides dans lesquels le gaz neutre reste neutre. Donc c'est ce problème de l'irrégularité qui est simulé, et donc l'épaisseur efficace d'absorption, elle est proportionnelle à la quantité d'atomes neutres que vous avez sur la ligne de visée, et celle-ci est proportionnelle au taux de recombinaison, le nombre d'électrons et de protons, hein, H2 c'est le proton, donc ces deux-là sont égaux, et égal à la surdensité delta, delta rho sur rho. Et puis gamma H1, c'est le taux d'ionisation de H1 qu'on espère trouver justement dans ces simulations qui se basent sur les observations. Alors voici ce que cela donne en fonction du redshift. Ça, c'est une simulation de Kukerni et al. Qui montre qu'il faut retarder la réionisation pour expliquer tous ces quasars. Vous avez ici, en fonction du temps de redshift ou de la fréquence, ici vous avez le redshift 8 et 6, donc c'est toute la période d'ionisation, le taux d'atomes neutres, c'est-à-dire lorsqu'il est bleu, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est tout ionisé, ici le rouge c'est du neutre, des poches neutres, et ici la température, vous voyez que la température est basse lorsque vous avez le taux neutre, lorsque c'est ionisé c'est plus chaud, et ici c'est le taux d'ionisation qui est beaucoup plus lisse et qui évidemment montre que vous avez un fort taux d'ionisation lorsque c'est rouge, et dans les poches neutres, un faible taux. Donc tout ça vous donne des courbes qui vous permettent de représenter les observations. Alors ici, l'observation, c'est un certain nombre de quasars qui vous montrent quel est le degré d'ionisation. Là, c'est le degré de fraction de protons. Donc 1, ce sera lorsque ce sera totalement ionisé, et puis 0 au départ. Donc toute cette période-là, on voit que la réionisation est quand même assez tardive, elle se finit à Z égale 5. Et ça correspond à peu près à l'épaisseur optique de diffusion du fond cosmologique, des photons cosmologiques, avec les électrons de la réionisation. Et puis, on essaie d'expliquer cette réionisation avec un taux d'ionisation qui est dû soit au quasar, le quasar c'est en vert, et aux étoiles. Et aux étoiles, c'est en rouge. On s'aperçoit que dans ce modèle, qui correspond le mieux aux observations, les quasars ne dominent pas. On n'est pas dominé par les quasars, mais plutôt par les étoiles. Et les étoiles, bon, il y a plusieurs versions. Il y avait d'abord en 2012 une version qui était assez optimiste. Et aujourd'hui, Buchwein et al. Ou bien la version de Kulkarni montre qu'on a quelque chose qui est beaucoup moins ionisant au départ. Donc on a le bleu là qui essaie d'ajuster les données. Alors, ça, c'est un petit peu indirect. On se sert des quasars, mais on ne voit pas les galaxies qui rayonnisent. On va essayer de détecter directement ces galaxies. Et donc, comment on va faire? C'est ça le problème. Vous avez un champ profond de Hubble qui fait quelques minutes d'arc. On sait qu'il y a à peu près 3000 galaxies par minute carrée, donc c'est énorme. Ici, vous avez peut-être 10 000 galaxies, vous ne les voyez pas. Ce que vous voyez très bien, c'est les grosses galaxies. Elles sont devant nous, c'est l'avant-plan. Ici, c'est des galaxies qui sont à Z égale 0,1, 0,5, pas plus. Et ceux auxquels on est intéressé, ce sont les tout petits points. Alors, vous voyez, l'image n'est pas très bonne, mais enfin, il faudrait faire des zooms pour voir que vous avez 10 000 points. Alors, comment on va faire? Évidemment, on ne sait pas où ils sont. Quels sont les points lointains et quels sont les points proches? Les petits points, pour en faire des spectres, c'est très, très difficile, puisque quand vous faites un spectre, vous étalez tous les photons en fonction de la longueur d'onde, et ici pour ces petites galaxies vous n'avez pas assez de photons, donc le Hubble est nécessaire parce qu'on veut avoir résoudre un petit peu. Il n'y a que le Hubble qui a une résolution de 0,1 arc seconde. On sait qu'au sol, les télescopes au sol, ils ont beau être plus grands, ils ont l'atmosphère qui trouble leurs images, donc ici il faut absolument être dans l'espace. Donc vous avez des petits points, mais ensuite comment savoir celles qui sont loin et qui sont près? Alors il y a une technique qui s'appelle la cassure Lyman, justement. On appelle ça en anglais Lyman Break Galaxy, donc c'est une coupure Lyman. On les appelle LBG, pour Lyman Bright Galaxy. Et c'est quelque chose qui a été inventé déjà dans les années 90-2000 pour avoir des galaxies déjà à Z égale 3. Ensuite, on va voir à Z égale 7. Mais pour Z égale 3, on s'aperçoit que les galaxies émettent un certain continuum. Et puis, à partir de la Reddyman, on a une absorption due à tout ce qui est sur la ligne de visée entre cette galaxie et nous. Et c'est exactement ce qu'on avait vu pour les quasars. Mais là, c'est pareil. Ici, on a une photométrie à trois bandes, hein, mettons le bleu ou le U, le green, vert, et puis red, rouge, hein, trois couleurs. Et on sait que, et c'est Steidel et Tal et son groupe qui était le pionnier dans cette histoire, dans les années 98, qui a montré qu'il y avait un premier saut Lyman alpha et puis ensuite une coupure qui est due au continuum de Lyman. Et vous voyez que vous ne voyez plus aucun flux à cette longueur d'onde-là, qui, au repos, est de 922 angstrom. Mais évidemment, décalée vers le rouge, elle va être à 4000, par exemple, à Z égale 3. Donc on sait que si on fait juste une photométrie, on regarde la couleur, trois couleurs de la galaxie, mais les bleus auront disparu. Et c'est avec cette couleur qu'on va pouvoir savoir où sont les galaxies. Alors pour Z égale 3, c'était le diagramme qu'avait fait Steidel. Donc ici, c'est G-R, vert moins rouge, ici bleu moins vert. Et vous voyez qu'on peut positionner la couleur des galaxies locales, Z égale 0. Par exemple, les elliptiques sont plus rouges. Ici, c'est toujours rouge qui monte et rouge qui va vers la droite. Pour Z égale 0, vous avez des elliptiques plus rouges parce qu'elles ont des étoiles plus vieilles, des galaxies spirales, des galaxies irrégulières qui ont beaucoup de gaz, elles sont plus bleues. Donc là, on a toutes les galaxies à Z égale 0. Ici, on a des étoiles, malheureusement, qui viennent contaminer, les étoiles de la Voie lactée. Et puis, ce parcours-là, c'est justement le fait que les galaxies sont rouges parce que le bleu a été absorbé par le milieu intergalactique. Et à ce moment-là, on a les galaxies à Z égale 2,8 sont là, les galaxies à 3,5. Et donc, si vous faites une photométrie à trois couleurs, ce qui est faisable avec le Hubble et même d'autres instruments, aujourd'hui, cette technique des couleurs est très développée. Par exemple, cet instrument qui vient d'être construit en Espagne, il fait 2,6 mètres de télescope et un grand champ de vue, 3 degrés, ce qui est l'avantage énorme. Il va pouvoir regarder des millions et même des centaines de millions de galaxies uniquement en regardant leurs couleurs et même en faisant des filtres un peu plus que 3. Ici, vous avez le diagramme que Steidel avait fait. En grisé, vous avez les galaxies proches et puis le redshift monte ici vers jusqu'à 3 et vous voyez que c'est ici rouge. Toutes les galaxies à Z égale 3 sont là. Donc on sait si on fait un diagramme couleur-couleur, on sait où sont les galaxies à regarder en priorité, ce sont celles-ci. Et puis vous avez quelques contaminations d'étoiles. Vous voyez qu'ici, vous avez la photométrie de J+ sera plus que 3 couleurs, parce que 3 couleurs, c'est bien pour Z égale 3. Si vous voulez avoir jusqu'à Z égale 7 ou 8, vous avez besoin de plus de points. Donc ici, il y en a une dizaine, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et donc on va pouvoir échantillonner la courbe de lumière d'une galaxie typique avec une raie de Lyman alpha et puis la chute, la cassure de Lyman qui donne le redshift en fait sans même avoir besoin de faire le spectre, ce qui est justement le but. Alors par exemple, un travail de Bunker et Tal en 2010, vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs, ici c'est le visible, le rouge et puis l'infrarouge, on va même aller jusqu'à Z, Y, JH qui sont les couleurs dans l'infrarouge et on appelle ça Z-drop, bon, ça tombe dans le Z. Vous voyez qu'en Z, il n'y a plus rien. Vous avez toujours un objet au centre du champ et on regarde dans quel filtre la luminosité tombe. Alors, on appelle ça des Z-drop parce qu'ils sont tous tombés en Z. S'ils étaient à redshift plus loin, ils seraient tombés en Y, J-drop, H-drop, etc. Donc, on a uniquement avec la photométrie de 4, 5, 6 couleurs, on sait quel est le décalage vers le rouge et la position de la galaxie, quelle est la galaxie à regarder, vu qu'il est impossible, avec si peu de photons, de faire un spectre. Donc ici, Bunker et Tal avait montré quelles étaient en fonction des couleurs. Là, c'était pas bleu-vert, mais c'était Y moins J et Z moins Y, des couleurs dans l'infrarouge. Vous voyez encore tout le diagramme des galaxies proches qui sont ici. Ici, vous avez les étoiles naines qui sont très rouges. Vous savez qu'il y a O, B, A, F, G, etc. Toutes les étoiles de la séquence principale, O étant très bleu et M étant assez rouge. Mais au-delà de M, vous avez LT, et ces LT sont justement des étoiles qui viennent contaminer. Donc, par exemple, celle-ci, c'était peut-être une étoile, ce n'était pas une galaxie à très grand redshift, c'était très rouge. Et donc, ils ont trouvé une dizaine de galaxies qui allaient de 6.5 à 7.5. Alors, il y a une petite complication qu'il faut prendre en compte, c'est l'extinction de la galaxie propre. Donc, on définit ce qu'on appelle une pente dans l'UV du spectre de la galaxie, qui va s'exprimer, le flux de la galaxie va être en lambda puissance bêta, et bêta va être en général négatif, c'est-à-dire que tout le rouge, les grandes longueurs d'onde, donc le rouge, va être cassé si la galaxie est bleue. Donc ici, moins 2.5, ce sera une galaxie bleue. Ici, c'est rouge quand on va vers la droite. Et donc, vous avez tous les bêta. Alors, pourquoi ce bêta est important? Parce que c'est de l'extinction interne de la galaxie. Ce n'est pas un décalage dû à l'espace intergalactique. Donc, ça, il faut le corriger pour avoir le bon redshift, parce que ce rougissement pourrait vous faire tromper de redshift dans le redshift photométrique. Donc, on corrige de cette extinction. Et puis, on a le redshift entre 7 et 8, donc, dans la période de réionisation. Alors, voici la définition plus précise de cette pente bêta, qui est très importante, parce qu'elle permet de corriger de la pente qui est due à la poussière, de rougissement, et qui n'est pas due au redshift photométrique, donc la couleur qui donne le redshift. Donc, il faut d'abord corriger de ça avant d'avoir le redshift. Et donc, ici, en fonction du redshift, vous voyez les galaxies proches, toujours la couleur ici, Z moins Y, en fonction aussi du rougissement, et vous avez les étoiles, alors qui sont évidemment à Z égale 0, qui sont dans la Voie lactée, les étoiles qui contaminent, et puis ici, en théorie, toutes les étoiles, toutes les galaxies dans la réionisation devraient être dans cette région-là, dans cette couleur-là. D'où ça a été possible de déterminer, plusieurs travaux ont fait ce genre de travail et ont vu des dizaines, c'est pas beaucoup, il y a des dizaines de galaxies à Z égale 7, 8 qui sont repérées grâce à leur continuum stellaire qui s'arrête brutalement et qui est cassé dans le Lyman break. Alors qu'est-ce qu'on a obtenu avec le télescope Hubble? On a obtenu que on a vu que la formation d'étoiles à Z égale 7 était bien plus petite qu'à Z égale 3, divisée par un facteur 10 même. Et que ces galaxies, justement, étaient insuffisantes pour rayonner l'univers. Il n'y en a pas beaucoup. Et en plus, elles ont très peu de formation d'étoiles, donc très peu de rayons ionisés. Donc, si on veut que ça puisse rayonner, il faudrait soit que la fraction d'échappement, donc de l'UV, puisse sortir de la galaxie beaucoup plus que ce qu'on connaît à plus bas redshift, donc une fonction d'échappement supérieure à 50%, ce qui est assez peu réaliste. En général, c'est plutôt 10% au maximum. Ou alors que l'univers soit plus homogène, donc ce soit plus facile de le rayoniser. Mais on voit dans les simulations numériques que ce n'est pas du tout homogène, il y a des paquets. Et lorsqu'on a des zones denses, on sait que la recombinaison est forte et ça empêche la rayonisation. Ou alors, il faudrait qu'il y ait ces fameuses étoiles de population 3 qui sont très, très massives. Et donc, pour le même taux de formation d'étoiles, si on n'a que des étoiles massives, on aurait plus de rayonnement ionisant par taux de formation d'étoiles, puisque normalement on a une fonction, ce qu'on appelle IMF, une fonction initiale de masse des étoiles, qui est une loi de puissance, et il y a toujours, pour chaque étoile massive, un grand nombre d'étoiles, de petites étoiles, qui ne rayonnissent pas. Donc on perd, dans le taux de formation d'étoiles, on perd le facteur rayonnisant. Donc peut-être il y aurait beaucoup de population 3, ça c'est toujours pas connu. Et donc actuellement on sature, on n'arrive pas à détecter plus de ces galaxies à très grand redshift. C'est pourquoi on construit ce télescope spatial, donc JWST, James Webb Space Telescope, qui est beaucoup plus grand. Le Hubble fait 2,5 m. Donc là, ce sera 6,5 m. On aura plus de sensibilité. On va travailler dans l'infrarouge, 0,6, 27 microns. Pourquoi? Parce que toutes les galaxies sont décalées vers le rouge, donc il faut aller dans ce domaine-là. Alors, il va être lancé en mars 2021, alors je dis peut-être, parce que la première date de lancement, c'était 2009, puis après 2013, puis après 2014. On a cru que c'était 2018, et tout le monde avait préparé tous ses projets, mais en fait, ça a encore été retardé, donc espérons que ça va être vraiment lancé en 2021. Et il va être lancé au point de Lagrange, L2, pour être affranchi de tout l'infrarouge qui était mis par la Terre, etc. Et donc, il aura une durée de vie limitée. Le Hubble était à quelques centaines de kilomètres de la Terre, tournait autour de la Terre, donc vous pouvez le réparer. Mais là, pas du tout. Il sera à 1 million de kilomètres. Et donc, il y a une durée limitée. Pourquoi ? Pas parce qu'il est refroidi. En fait, le refroidissement sera mécanique, donc on n'aura pas besoin d'hélium, comme pour Planck ou Herschel, où on avait une durée limitée par l'hélium qui refroidissait les récepteurs. Ce ne sera pas le cas. Ce qui va limiter, c'est les moteurs. Il faut un combustible pour les moteurs pour réguler la position du satellite autour du point de Lagrange. Ce n'est pas quelque chose de très, très stable. Il faut le réorienter. Donc, on pense que ça ne va pas durer plus de 10 ans. Mais en 10 ans, on aura quand même le temps de faire toute la physique que l'on veut. Donc, actuellement, on a vu qu'on était limité par le HST. On a la fonction de luminosité, hein, de la luminosité UV des galaxies, en fonction du redshift. Ici, Z4, 5, on voit que ça évolue lentement. Et puis, tout d'un coup, à 10, ça chute. Hein. On sait qu'il y a beaucoup moins de galaxies qui émettent de l'UV à grand redshift. Ici, quelques-unes qui ont été faites depuis, en 2019. Mais tout ça, ce sont des candidats. On n'est même pas sûr qu'ils soient vraiment à grand redshift. Il y a quelques photons qui sont observés, donc quelques couleurs, et en général, ce sont des candidats. Donc, c'est quand même assez difficile. Ici, il y a le nombre de candidats pour Z entre 8 et 10, donc dans cette période de réalisation au début, c'est 9. En fait, il y a 9 candidats qui sont reportés dans le grisé, ici. Et on le compare à divers modèles, et beaucoup de modèles prédisaient 30 candidats dans le même champ. Donc on voit que c'est beaucoup moins, ce qu'on trouve est beaucoup moins que ce qui était prédit. Donc il va falloir revoir les modèles. Certains modèles quand même prédisent à peu près ce qu'il faut, mais il y en a un ou deux, mais pas plus. Donc est-ce qu'on est tombé sur un endroit qui n'était pas très ionisé ou... Est-ce que la variance cosmique pourrait expliquer ça ou est-ce que les modèles ne sont pas bons? Tout ça, on va le savoir lorsque le James Webb sera lancé. En fait, on avait déjà le taux de formation d'étoiles en fonction du redshift à bas redshift et on essayait de l'extrapoler de façon empirique, comme ceci. En fait, pas du tout. Il tombe. Hein, à Z égale 8, 9, 10, là, il tombe. Et peut-être, quand on regarde bien, il ne faut pas être trop surpris qu'il tombe autant parce qu'il suit la zone en jaune. La zone en jaune, c'est ce qui est prédit par les modèles de simulation cosmologique pour des halos noirs, c'est-à-dire l'évolution de la matière noire en fonction du redshift. Et comme ceci, on forme des petits halos de matière noire qui vont fusionner peu à peu et faire des gros halos. Et c'est la... Le taux de formation d'étoiles semble suivre les halos noirs, ce qui finalement serait un peu logique. Donc, tout ça, on n'en sait rien, mais on le saurait peut-être dans un proche avenir. Alors, il y a tout de même des objets surprenants. Voici un objet à Z égale 11.1 qui a été trouvé aussi par Hoesch et collaborateurs par un GRISM, donc presque une simili spectro avec le HST. Et on voit qu'il y a une cassure Lyman ici et un continuum et que ce redshift serait vraiment 11.1. On a un objet très brillant et on n'aurait pas dû le voir parce qu'il devrait être très rare. Et on a seulement un champ qui fait 0,2 degrés carrés. Donc c'est là. Ou alors on a gagné à la loterie. Mais normalement, on devrait... cartographier 10 à 100 fois plus de surface pour trouver un objet aussi rare. C'est un petit peu cette fonction de luminosité-là. Cet objet se trouve là. Normalement, le nombre d'objets de cette luminosité-là, si on extrapole, devrait se trouver là. Donc, on a trouvé un objet. Évidemment, comme le nombre n'est pas grand, on a une variance assez grande, mais on ne sait pas du tout si c'est un candidat, un bon candidat, ou est-ce qu'on se trompe en variance cosmique. Alors, il y a aussi une autre méthode. Là, on a parlé de cassure de Lyman pour détecter des galaxies qui avaient un continuum dû aux étoiles. Maintenant, on va s'intéresser à des émetteurs de Lyman alpha, de la raie Lyman alpha, carrément. Donc, ce n'est plus le continuum, c'est la raie. Et on les appelle Lyman alpha émetteur, donc LAE pour aller vite. Et ces émetteurs Lyman alpha peuvent très bien ne pas avoir de continuum, assez peu d'étoiles. Ils ont beaucoup de gaz, ils forment beaucoup d'étoiles, donc beaucoup de rayonnement UV, Lyman alpha, et ça fait très très longtemps qu'on les cherche. Ceux qui ont vraiment percé là-dedans, ce sont les Japonais. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un télescope Subaru de 10 mètres qui est à Hawaï, mais surtout, ils ont un grand champ et des détecteurs et même des spectros qui sont les meilleurs au monde actuellement. Alors, il y a OVLT, il y a MUSE aussi qui permet de faire des cartographies Lyman alpha, mais le champ est assez grand, mais il fait une minute d'arc, alors que là, c'est plutôt des degrés. Donc, c'est Ushi et al. Qui ont détecté récemment 2000 de ces émetteurs Lyman alpha qui forment des étoiles à grand redshift. Alors, dans la période de réionisation 5-7 et 6-6. Alors, ils ont montré que, voici un des champs qu'ils ont vus, ils ont montré que ces émetteurs Lyman alpha étaient très concentrés dans les groupes de galaxies, dans les filaments, dans les structures. Ici, vous avez un de ces gros en carré, c'est le plus massif, le plus émetteur de Lyman alpha, et ensuite des petits plus moins significatifs. Et puis, il y a un certain biais. Ce qu'on appelle biais, c'est le fait que si, par exemple, en matière noire, vous avez un certain contraste entre la surdensité et le vide, eh bien, pour la formation d'étoiles, vous avez un contraste plus grand parce qu'il faut un certain seuil de densité pour former des étoiles. Donc, dans le vide, vous n'allez rien former. Vous allez former surtout dans les surdensités. Donc, le contraste entre les galaxies qui forment des étoiles dans la surdensité et le vide sera bien plus grand qu'en matière noire. Donc, c'est ça qu'on appelle biais. En général, dans le biais aujourd'hui, on a un biais B égale 2. Alors, si B égale 1, s'il n'y a aucun contraste supplémentaire par rapport à la matière noire, si B égale 2, vous avez beaucoup plus de galaxies dans les surdensités, par exemple dans les amas de galaxies, que dans les vides. C'est ce qu'on voit, par exemple, dans l'amas de la Vierge, l'amas de Coma, etc. Et là, il y a un biais encore plus grand. Alors, pourquoi il y a un biais encore plus grand, de 4 ? C'est que non seulement il se forme plus de galaxies dans les surdensités, mais aussi, ces surdensités ont beaucoup plus de photons ionisants. Donc, il y a des bulles, il y a des poches ionisées tout autour. Et donc, les photons Lyman alpha sortent, s'échappent. Alors que si on est dans un vide avec une petite galaxie qui forme une toute petite poche, eh bien, ils rencontrent du gaz neutre autour qui avale les Lyman alpha et vous ne les voyez plus. Donc, il y a un biais qui est que les Lyman alpha s'échappent dans les zones denses qui forment de grosses bulles ionisées et ne s'échappent pas dans les vides. Donc, vous avez un biais assez grand, 4, c'est assez, un des plus forts utilisés. Donc, vous voyez le biais ici, qui est 4. Les deux points observés dans ces deux redshifts sont là. Et puis ici, on a des modèles qui montrent quelle est la masse du halo noir dessous. C'est 10 puissance 11 masse solaire pour le halo noir, ce qui est déjà assez confortable. Et puis, des petits modèles qui vous montrent, si jamais on fait un modèle avec les galaxies qui se conservent sans fusion de galaxies, on peut dire quels seront les descendants de ces objets Lyman alpha qui sont dans les groupes de galaxies. On voit que dans ce modèle simple, on arrive à un biais de 2, c'est-à-dire on arrive à des galaxies qui seront les galaxies elliptiques dans les amas de galaxies comme la Vierge ou Coma, à z égale 0. Donc ça, c'est juste pour savoir quels sont les ascendants et les descendants de ces objets qu'on observe à grand redshift. Donc, avec ce genre d'observation, on peut, dans le détecteur Lyman alpha, on peut avoir une petite idée de l'ionisation ici, de l'univers, parce qu'en fait, on sait qu'il y a les Lyman alpha sortent et quel est le degré d'ionisation. Donc, ce qu'ils ont montré, c'est qu'il y avait 15% de gaz neutre à Z égale 6, il y en avait 50% à Z égale 7,5. Donc, vous voyez un petit peu le taux d'ionisation. La moitié est à peu près à Z égale 7,5. Ici, c'est la fraction neutre en fonction du redshift linéaire. Lorsqu'on la met en log, on a exactement la même chose, mais on a l'impression d'une ionisation plus brutale, mais simplement parce que le taux d'ionisation est très faible ici. Et on peut comparer aux modèles, les modèles de Dinuo et al., par exemple, avec des ionisations très tôt en bleu ou très tard en vert et puis au milieu en rouge. Et on voit que les points de mesure penchent vers une réionisation tardive. Vraiment, c'est plus tard qu'on a les poches ionisées qui vont se rejoindre et réioniser tout l'univers. Alors, il y a aussi d'autres possibilités. C'est, on a vu qu'avec ces galaxies, même émetteurs Lyman alpha, on arrive, en fonction de la luminosité UV, uniquement vers cette région-là, le nombre ici, et qui ne suffit pas à rayonner l'univers. On a fait le calcul. Et ce à quoi on pense, c'est qu'il y a des galaxies encore plus faibles, Ici, c'est luminosité, la magnitude dans un sens, mais luminosité dans l'autre, c'est toujours le problème. Ici, vous avez une faible luminosité UV, un grand nombre de galaxies, et ce sont celles-là qui sont très peu ionisantes, mais il y en a tellement en grand nombre que c'est celles-là qui vont rayonner l'univers. Mais vous voyez que pour avoir ces faibles luminosités, il faut céder de l'amplification gravitationnelle, c'est-à-dire prendre des amas de galaxies d'avant-plan qui vont amplifier les galaxies de fond. Il n'y a que comme ça qu'on peut avoir ces faibles galaxies. C'est ce qu'on appelle les champs de Hubble frontier field, les champs frontières. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment la frontière que peut faire Hubble, avoir les galaxies les plus faibles et les plus lointaines possibles. Alors, on appelle ça HFF, Hubble Frontier Fields. Alors, Hubble a observé des tas d'amas de galaxies proches, Z égale 0,2, 0,5, donc des champs profonds dans ces amas de galaxies, dans le but de détecter des galaxies derrière, d'arrière-plan, qui sont amplifiées par la lentille gravitationnelle. Donc, c'est là qu'on a accès à cette zone-là. Mais comme vous voyez, le gros problème, c'est le seul télescope gravitationnel qu'on a, mais le grand problème, c'est que lorsqu'il y a une grande amplification, le facteur d'amplification, on l'appelle mu. Lorsqu'il y a une grande amplification, ce sont les lignes critiques. Et à ce moment-là, ça dépend beaucoup du modèle de l'amas que l'on fait. Est-ce que le nombre de galaxies que vous prenez, etc. Et donc, selon les auteurs, on a une grande barre d'erreur. Donc, on ne sait toujours pas exactement qui croire entre le vert, le rouge et le... Alors, voici un de ces champs frontières de Hubble, Frontier Field. Vous avez un amas de galaxies, la plus grosse galaxie de l'amas est ici. Vous voyez des arcs gravitationnels, on a l'habitude de voir que les lentilles produisent des arcs. Ici, c'en est un particulier, puisque cette galaxie qui fait partie de l'amas, il y a un zoom ici, a amplifié derrière elle une galaxie qui avait une supernovae. Et ça, la supernovae, vous en voyez quatre images. En effet, la lentille gravitationnelle non seulement amplifie, mais peut faire plusieurs images de la même objet lointain, donc vous avez une supernovae et on a pu détecter, ça a monté de luminosité puis redescendu à l'espace de 2 mois, on a pu voir une supernovae à Z égale 1,5 à peu près pour un amas de galaxies qui était à 0,5. Donc on a une croix d'Einstein ici, mais on a un grand nombre de galaxies lointaines derrière à plus grand redshift. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, évidemment, pour retrouver l'information sur les galaxies sources qui sont d'arrière-plan? Eh bien, il faut repartir sur les lignes critiques. Ici, vous avez l'amas de galaxies qui est observé, le plan image. Et puis, ce que fait la lentille, c'est qu'elle conserve la brillance de surface, mais elle étale. C'est-à-dire qu'une galaxie devient beaucoup plus grosse. Elle étale, l'espace est dilaté, si vous voulez, donc la galaxie devient plus grande. Et donc, sa luminosité totale est plus grande, mais sa brillance de surface est la même. Donc, c'est ça qui est important, c'est qu'il faut connaître comment est dilaté l'espace dans tous les sens. C'est ici qu'est la difficulté. Donc, vous voyez qu'on peut prendre un petit espace dans l'espace image, regarder dans l'espace source ce que ça donne. Ça donne quelque chose d'assez complexe. Et puis, par exemple, si vous avez fait un aller et un retour ici, vous avez par exemple des galaxies que vous mettez dans cette image, et puis vous repassez le modèle de lentille pour savoir ce que ça donne dans l'espace image. Vous voyez la ligne critique ici. Et en général, près de la ligne critique, vous avez une rareté de galaxies, puisque le nombre de galaxies par minute carrée est beaucoup plus faible, puisque vous avez dilaté l'espace. Et ça, c'est important pour savoir combien il y a de galaxies par unité de volume. C'est ce qu'on voudrait savoir dans la fonction de luminosité, on voudrait savoir combien de galaxies avec une certaine luminosité, donc ça on peut l'avoir avec le facteur d'amplification, mais aussi le volume à laquelle ça correspond. Alors, par exemple ici, pour vous illustrer cette déformation d'espace, vous avez un château, vous passez un petit trou noir devant qui fait une lentille gravitationnelle, vous voyez combien le bas du château, par exemple, a été dilaté, donc l'espace derrière est dilaté, et il nous faut absolument savoir de combien est la dilatation pour savoir combien il y a de galaxies par unité de volume dans le champ d'arrière-plan. Donc, c'est là qu'est la difficulté. Vous voyez que dans ce champ-là, avec cet amas Maquess 1149, il y avait 4 auteurs qui ont reconstruit l'espace de la source d'arrière-plan et ça n'a pas vraiment la même taille et la même allure. Donc, on voit que les courbes qu'ils en déduisent en fonction de la fonction de luminosité est différente selon les auteurs. Vous avez plusieurs auteurs ici en couleur et chacun a une interprétation différente parce que le modèle de lentille est différent. D'où, ceci explique la fonction de luminosité, le nombre de galaxies par unité de volume. Lorsque la galaxie est faible et amplifiée par les champs, le frontier field ici, vous avez énormément d'incertitudes. Donc c'est bien d'avoir une grande amplification, mais finalement, vous n'avez pas la réponse à votre question. Alors, il y a de temps en temps, quand même, vous avez la chance de voir dans ce diagramme ici en fonction de redshift, vous avez le nombre de Lyman alpha, et on avait vu que ce nombre Lyman alpha tombait. Pourquoi ? Parce que lorsque vous rentrez dans la période de la réionisation, vous avez beaucoup plus de gaz neutre, et donc les photons ne sortent pas. De temps en temps, ils sortent parce que vous êtes tombé sur des émetteurs Lyman alpha qui sont très massifs et qui ont rayonisé une grande poche autour. C'est le cas ici où ils ont trouvé quatre galaxies à Z égale 7 avec des raies Lyman alpha, des raies même de C3. Donc on est sûr que c'est vraiment la raie Lyman alpha puisqu'on a aussi la raie de métallique correspondante et à faible métallicité. Et il faut prendre en compte aussi le fait que lorsque vous êtes dans une grosse galaxie, on a cette raie Lyman alpha, elle a des diffusions résonantes sur tous les atomes d'hydrogène autour. Ici, vous avez par exemple une grande région H2 qui est la galaxie en question et une flambée de formation d'étoiles, un starburst. Et puis, les rayons Lyman alpha, ils vont être diffusés, mais alors des milliers de fois. Ça, ici, c'est une image simplifiée, mais vous pouvez avoir des milliers de diffusions. Et à chaque fois, vous avez un petit décalage de fréquence. Donc, en vitesse, vous sortez de l'arrêt. Donc, vous n'êtes plus absorbé et vous pouvez échapper à la fois par l'arrêt rouge ou bleu, et surtout rouge, c'est encore mieux. Et c'est ce qui se passe. Il faut prendre en compte la diffusion résonante pour savoir ce qui va sortir et en déduire le taux d'atomes d'hydrogène. Ici, vous avez une simulation qui vous montre qu'en effet, lorsque vous avez une galaxie très massive, vous avez une poche ionisée autour qui permet l'échappement des rayons UV par la diffusion résonante. Donc il faut prendre en compte cette diffusion, c'est ce qui est pris là, dans ce modèle. Alors le modèle qui fit le mieux, vous avez ici une réionisation tardive ou initiale, et en fait c'est la réionisation tardive qui marche le mieux encore, aussi pour les émetteurs Lyman alpha. Alors ici est justement le petit diagramme qui vous explique pourquoi on a vu ces quatre galaxies Lyman alpha très puissantes, émetteurs Lyman alpha assez puissants. Pourquoi ? Parce qu'on était dans une surdensité. Et dans cette surdensité, la poche de rayons ionisés est beaucoup plus grande. Et donc, il faut aller très loin pour rencontrer de l'hydrogène atomique, donc pour être réabsorbé. Et finalement, si vous allez loin, vous allez en vitesse assez loin de l'arrêt, et donc vous sortez de l'arrêt. Et donc, c'est en sortant de l'arrêt que vous pouvez avoir beaucoup plus d'échappement. Ici, vous avez la simulation de pour la même intensité émise, vous échappez beaucoup plus parce que vous êtes dans le bord de l'arrêt. Donc finalement, lorsqu'on est une galaxie massive, on permet à plein de petits compagnons de sortir, d'avoir des Lyman alpha qui sortent. Donc dans ce diagramme de probabilité d'avoir de Lyman alpha, en fonction du redshift, vous n'avez pas seulement une chute, mais vous avez peut-être, pour expliquer cette observation de quatre galaxies ici, il faut prendre en compte ce phénomène pour expliquer ça. Voilà, maintenant je vais, pour terminer, m'intéresser au gaz. On a vu qu'on avait des quasars, des émetteurs à Cassure-Lyman, l'émetteur Lyman alpha. Alors maintenant on va s'intéresser au gaz qui est aussi à l'origine de la formation d'étoiles. On sait que la formation d'étoiles est assez peu efficace au début, pourtant les galaxies sont très gazeuses. Et on va utiliser ALMA. ALMA, c'est un grand télescope, un réseau, un interféromètre qui est au Chili, 60 antennes, et qui observe dans le millimétrique. Alors, le millimétrique, pourquoi c'est très intéressant ? Eh bien, vous avez ici le flux d'une galaxie typique en fonction de la fréquence ou de la longueur d'onde. Ici, vous avez 1 mm, 100 microns, etc. Et par exemple, pour ARP 220, qui est une flambée de formation d'étoiles, une galaxie en collision, vous avez le domaine centimétrique ici. C'est le rayonnement synchrotron, alors ça qui dépend des noyaux, des AGN, des quasars au centre. Bon, ça, ça, c'est toujours une loi de puissance. Par contre, ici, ce que vous avez, c'est l'émission infrarouge de la poussière. Et cette poussière, elle est chauffée par les étoiles qui sont cachées par le cocon de poussière autour. Donc, on ne les voit pas en optique. Mais les étoiles chauffent la poussière et la poussière rayonne toute l'énergie. Et cette poussière, elle rayonne à 100 microns. Pourquoi ? Parce que la poussière est à 30 degrés Kelvin. Et le rayonnement du corps noir à 30 degrés, c'est plutôt à 100 microns. Donc, vous voyez qu'il y a un pic de la poussière. Et quand on décale toutes ces courbes, alors ici c'est en log, donc ça permet de décaler juste par translation, à redshift différents. Alors ici c'est redshift très proche, 0,1. Et ensuite vous passez à 0,5, 3, 5, 10. Donc allez dans la redshift 10, donc dans la période de réionisation. Vous voyez que le pic, évidemment, il décroît. Mais comme en même temps le pic se décale vers le rouge, à 1 mm, vous voyez que toutes les courbes, à partir de 0,5, 3 jusqu'à 10, elles ont la même valeur. Donc, ALMA, c'est très précieux parce que vous regardez dans un champ à 1 mm et vous voyez les galaxies à Z égale 10, elles sont aussi fortes que les galaxies à Z égale 0,5. Donc, vous n'avez pas de pénalité d'aller regarder les galaxies lointaines. Donc, c'est ça qu'on va essayer d'exploiter. Alors, vous voyez, on va essayer aussi exploiter les lentilles gravitationnelles dont on a déjà parlé pour le Eman alpha. Et par exemple, vous avez l'amas du boulet, là, ici, bien connu pour ses qualités de tracer la matière noire. Bien, si vous regardez l'amas du boulet avec ALMA, vous filtrez toutes les galaxies de l'amas, vous ne les voyez pas, vous voyez que les galaxies lointaines. Pourquoi ? Parce que les galaxies lointaines sont amplifiées d'un facteur 10. Si elles n'étaient pas amplifiées, elles auraient la même valeur que les galaxies proches, mais ici, elles sont 10 fois plus grandes. Donc finalement, vous regardez l'amas et vous ne voyez pas l'amas, vous voyez tout ce qui est derrière. Donc ça, c'est intéressant pour justement tracer les galaxies à grand redshift. Donc, alors par exemple, un des exemples ici, avec Herschel, c'était la même chose. Avec Herschel, c'était un satellite qui regardait à la longueur d'onde 500 microns, 250, etc. Donc la poussière à 100 microns est décalée à 500 microns, c'est un demi-millimètre. Et vous voyez qu'avec l'HST, vous voyez les galaxies de l'amas qui faisaient la lentille. Et puis derrière, vous avez, alors cette Herschel n'avait pas la résolution, mais vous avez une source rouge et verte dont on n'avait rien vu en optique, mais quand on a regardé en millimétrique, on s'est aperçu qu'il y avait des raies, les raies des molécules qui étaient les raies de CO. Vous avez plusieurs raies de CO, 6, 5, 7, 6, la raie de C1, vous avez la raie d'H2O, vous avez la raie de N2, vous avez plein de raies qui vous donnent le redshift de la source, que vous ne voyez pas en optique, donc c'est le seul moyen de la voir, et puis qui vous donnent beaucoup de renseignements sur cette galaxie qui se trouvait être à 5, à peine dans la zone de réionisation, mais qui était une galaxie amplifiée d'un facteur 10. Et même si vous corrigez de cette amplification, vous avez une hyperlumineuse d'un starburst, enfin deux galaxies en interaction qui sont amplifiées donc fortement, donc qui ont un anneau d'Einstein que vous voyez ici en continuum et en ray. Et ceci est vu relativement régulièrement. Ici, ce qu'on montre, c'est que cet anneau d'Einstein a été reproduit par le modèle. Il a été aussi vu par deux interféromètres, celui de l'IRAM et celui de Hawaï, le submillimeter array. En fait, il faut toujours avoir un plus petit que soi, c'est-à-dire ici, le grand interféromètre filtre l'émission diffuse. Pourquoi ? Parce que c'est les antennes de 15 mètres, on ne peut pas les rapprocher plus que 15 mètres, donc on n'aura pas les espacements courts et donc les fréquences spatiales très grandes. Par contre, le petit interféromètre peut se rapprocher beaucoup plus et vous avez l'émission diffuse. Donc il nous faut les deux, les grands interféromètres et les petits. Et ALMA aussi a fait ce genre d'études. Alors dans les premiers temps d'ALMA, qui a commencé en 2012, on a regardé 23 galaxies, détecté 23 sur 26. En fait, c'était des galaxies qui avaient été détectées par le télescope du pôle sud en infrarouge et susceptible d'être des lentilles. On s'était dit au début d'ALMA, il valait mieux regarder des sources amplifiées. On était sûr de les détecter. Et en effet, ce que vous voyez en gris, c'est la lentille de Hubble d'avant-plan à bas redshift. Et en rouge, ce sont les contours de l'émission d'ALMA qui représentent des anneaux d'Einstein et qui sont à grand redshift. Elles sont à Z supérieur à 4. Et chaque image a été obtenue en 2 minutes d'intégration avec ALMA, ce qui est quand même remarquable. Donc, tout le nombre de galaxies à Z supérieur à 4 a été multiplié par 10 avec ALMA dans les premiers temps. On a aussi détecté des quasars à Z égale 7,1 par l'arrêt de C+. Le C+, c'est le C2, c'est le carbone ionisé une fois. Ce carbone ionisé une fois a une raie principale à 158 microns, 0,1 mm. Et dès que vous êtes à grand redshift, vous multipliez par 1 plus Z et vous l'avez aux alentours de 1 mm, donc dans le domaine de ALMA, le millimétrique. Et on a vu cette raie de C+, à Z égale 7,1 avec ALMA. Alors on a une surprise quand même, c'est que le C2 est beaucoup plus faible que l'on ne pensait. Il y a un rapport en C2 entre l'émission de l'infrarouge lointain qui décroît. Alors pourquoi ? C'est que ces galaxies à grand redshift sont très compactes. L'univers est très dense au début, les galaxies sont compactes. Pour la même formation d'étoiles, vous avez une poussière qui est beaucoup plus chauffée parce que les étoiles sont très proches. Et donc, comme la luminosité infrarouge va comme la température à la puissance 6, vous avez beaucoup de luminosité infrarouge pour la même formation d'étoiles. Et le C+, lui, est proportionnel à la formation d'étoiles. Donc, lorsque vous faites le rapport, vous avez quelque chose qui chute et vous n'avez pas un C+ proportionnel à l'infrarouge. C'est dommage. Lorsque ALMA a pu faire des grandes bases, c'est-à-dire 16 km et plus, vous avez pu avoir 30 milliards de secondes de résolution. Vous voyez que ça fait 0,03. C'est mieux que le Hubble Space Telescope qui fait 0,1. Donc on a quelque chose de, en millimétrique, en radioastronomie, qui a plus de résolution que le Hubble. Alors qu'est-ce qu'on a vu ? Par exemple, ici vous avez une galaxie de Hubble qui sert de lentille. Vous ne voyez rien derrière, mais lorsque vous regardez ALMA, vous ne voyez plus du tout la lentille. Vous voyez seulement la galaxie de derrière qui a été amplifiée et sous forme de anneau d'Einstein. Donc vous pouvez reconstruire l'image source et c'est une galaxie qui forme des étoiles à Z égale 3, mais vous en avez à d'autres à plus grand Z. Donc vous voyez que l'intérêt avec ALMA, c'est que vous avez beaucoup de raies en même temps. Vous avez une grande ligne de base de fréquence. Vous pouvez avoir plusieurs raies de CO. Vous avez la raie de le continuum, la raie de H2O, etc. Donc beaucoup de renseignements sur les sources. Et lorsque on peut faire le comptage des sources, vous avez le flux à 0,8 mm. Et le nombre de sources détectées, vous voyez qu'ici, on a une cassure. On pense que cette cassure est due à tout ce qui est amplifié et faible flux vient de l'antigravitationnel. Il y a comme une cassure ici. Et ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que par rapport aux instruments précédents, au sol, qui n'avaient pas de résolution, on voyait une source. Et en fait, c'était deux ou trois sources ou quatre sources. Et c'est ce qu'on s'est aperçu. Par exemple, ici, vous avez quatre sources et non pas une. Donc, il y a une certaine multiplicité, une interaction entre galaxies qui fait plusieurs sources pour le même redshift. Et ça, on l'a vu avec ALMA, avec la forte résolution. On a aussi des galaxies pendant la période de réionisation, 6, 8 et 7. Vous avez ici, en contour vert, l'émission de la molécule CO, donc le gaz moléculaire, et puis le Lyman alpha en couleur. On voit qu'ils sont décalés. Et ça, c'est normal, puisque si vous avez de Lyman alpha qui sort, c'est que vous n'avez pas de gaz ni de poussière qui l'absorbe. Par contre, ici, vous avez plein de gaz, et donc peut-être il y a du Lyman alpha derrière, mais vous ne le voyez pas, puisque vous avez de l'extinction. De même, la détection de C2 à grand Z est maintenant beaucoup plus une industrie. On peut regarder deux cas, même à une résolution qui est seulement une seconde d'arc. Vous avez la carte de ALMA, vous avez la carte de HST avec cette résolution, l'arrêt de C+, vous avez l'absorption de l'atmosphère ici, on voit que ce n'est pas complètement transparent, mais quand même, il faut prendre en compte cette transparence. Et puis, vous avez une anticorrélation, en quelque sorte, entre le Lyman alpha et l'arrêt de C+. Ici, on avait des sources qu'avaient trouvées les Japonais, là, par exemple IMICO, un émetteur Lyman alpha très fort. Les gens ont regardé avec ALMA, n'ont rien vu. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de gaz. Et c'est pour ça que le Lyman alpha pouvait sortir. Donc ici, on a la raie de C+, et tout le gaz et la métallicité, qui est un petit peu anticorrélé avec le Lyman alpha. Par contre, une fois que vous avez cette raie, vous pouvez avoir une carte de vitesse. Ici, vous avez la vitesse en rouge de la rotation de la galaxie, de la vitesse qui s'en va et la vitesse qui vient vers vous. Donc on peut déduire la masse dynamique de la galaxie, et jusqu'à présent, bon, c'est pas encore très précis, Il y a des barres d'erreur assez énormes, mais la masse dynamique à l'intérieur de 2 kg par sec, elle est égale à la masse visible à peu de choses près. Il y a aussi, par l'antigravitationnel, un objet très intéressant à 8,38 qui est très gazeux, avec une masse de disque ici, de masse de poussière, pardon, qui est assez grande. Et évidemment, là, vous voyez un amas où il y a une ligne critique. Heureusement, cet objet est loin de la ligne critique. Il n'est pas très amplifié parce que là, vous avez plusieurs. Bon, bref, je n'ai pas le temps. Donc, je continue. Plusieurs interprétations. Alors, ici, vous avez aussi une galaxie dans la période d'organisation en interaction. On voit qu'on peut déterminer la vitesse qui est assez grande, 700 km entre les deux. Et puis, même avec une amplification assez faible, mu égale 2, on peut obtenir l'arrêt de C+, l'arrêt de CO. Ici, on voit que ce sont des objets quand même assez extraordinaires. Une taux de formation d'étoiles de 2900 masses solaires par an. Et ceci est dû à l'interaction entre galaxies qui précipitent le gaz les uns contre les autres et forment beaucoup d'étoiles. Donc, quand on met tous ces objets bout à bout, on peut faire une statistique et on voit, en fonction du redshift, que la masse de poussière et la masse de gaz, elle est à peu près constante, sauf dans cette période où on n'a pas encore assez de points. Mais ici, on a le point jaune, les deux galaxies en interaction. On voit qu'il y a pas mal de poussière. Hop, pardon, excusez-moi, je suis à l'envers. Voilà. Donc, la masse de gaz. Ici, ça, c'est dû à l'arrêt de CO qui n'a pas été détecté dans cette zone-là. Donc encore, il y a beaucoup de travail. On ne sait pas, et c'est ça qu'on voulait savoir, quelle était la quantité de gaz qu'il y avait dans ces galaxies-là. Dans l'arrêt de CO, c'est assez incertain, tout simplement parce qu'on ne sait pas quel est le rapport entre CO et H2, la molécule H2, qui, elle, est invisible dans les longueurs d'onde millimétriques. Donc il faut faire des hypothèses. Et la masse de halo noir, que l'on suppose, qu'on ne connaît pas bien encore, la masse dynamique n'était pas très bien connue, qu'on suppose être dans les mêmes rapports, la masse de baryon sur la masse de halo noir, entre 5 et 17%, ce qui est vrai pour Z égale 0. Alors, l'évolution cosmique de gaz, on la connaît pour le gaz atomique en fonction... Alors, le gaz atomique ne s'observe pas en émission pas plus que Z égale 0,2. Ce qu'on a ici, c'est l'absorption devant les quasars, la forêt Lyman alpha. Et on sait que le gaz H1 plafonne à Z égale 0. Et on pense que le gaz H2, le rapport H2 sur H1, va être d'autant plus fort à grand redshift. Pourquoi ? Parce que les galaxies sont beaucoup plus denses. Et lorsqu'on a un gaz dense, on change de phase, d'atome, on devient molécule. Et en plus, non seulement il y a beaucoup plus de gaz, mais il est plus dense. Donc on s'attend à avoir beaucoup de H2 à grand redshift. Ça, c'est les modèles. Est-ce qu'on peut déjà vérifier les modèles ? Ben, pas tellement. Ici, on a les modèles qui sont les droites. Et puis, les observations, ce sont les grandes boîtes. Vous voyez que les barres d'erreur sont très, très grandes. Pour l'instant, c'est compatible avec tous les modèles. On ne peut pas discriminer entre les modèles. Il y a encore beaucoup de travail à faire, surtout à grand redshift, pour savoir quelle est la quantité de H2 dans l'univers. Donc, je termine ici en disant que, comme vous l'avez vu, pour connaître le nombre de galaxies qui peuvent ioniser l'univers, on a plusieurs méthodes. On a la méthode des quasars, on l'a bien développée. On a la méthode d'observation des galaxies directement par la cassure de Lyman. Et ce sont la luminosité continuum des étoiles qui nous sert de photométrie. Et puis on a les émetteurs Lyman-alpha, qui sont la formation d'étoiles, la raie. Ici c'est le continuum, ici c'est la raie. Et puis on a aussi toutes les raies de gaz millimétriques, CO, C2, qui nous permettent d'avoir aussi des galaxies que l'on n'aurait pas vues en Lyman-alpha dans toute l'époque de réionisation. Donc avec tous ces traceurs, où est-ce qu'on en est ? On sait qu'il y a une réionisation tardive. Probablement la moitié est obtenue à Z égale 7,5. Et puis à Z égale 5,3, on arrête complètement la réionisation. Et on est toujours dans l'incertitude de savoir quelles sont les petites galaxies qui vont rayonner l'univers. Donc je vous remercie.